matin. Oui, on a du son, c'est bon. J'espère que vous êtes contents et que vous profitez de la belle température. Hier, je pensais aux plus de 130 femmes qui étaient ici, puis je me dis, ils doivent avoir vraiment un bon temps, mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'il fasse 17 plein soleil pour la première fois de l'année, cette journée-là? Mais j'espère que les femmes, vous avez eu un bon temps à la conférence. Mais certainement que la venue du bon temps, ça met un sourire, puis de la joie dans... En tout cas, dans notre visage, moi hier, puis avec la famille, en après-midi, on en a profité pour aller marcher à Ottawa, puis on a vraiment eu un bon temps, puis c'était le fun là, de voir la chaleur et l'été qui se pointait finalement. Donc, mon nom, c'est Dominique. Ceux qui me connaissent pas, Dominique King, je suis le pasteur de la jeunesse ici. Je suis responsable des adolescents, des jeunes adultes. Et cette semaine, ben en fait, dans les dernières semaines, vous avez entendu parler du voyage de Jibec Ado, J'aime mon voisin, qui va avoir lieu cet été avec les adolescents de l'Église. Et on a rencontré pour la première fois cette semaine l'équipe de J'aime mon voisin, de Jibec Ado. Et donc 10 jeunes, on est environ 5 leaders qui vont les accompagner. On va aller une semaine à Longueuil, une semaine à Gatineau. Et pendant ces deux semaines-là, qu'est-ce qu'on va faire essentiellement? On va aller dans les deux communautés, soit Longueuil ou Gatineau, puis on va aider les gens. On va prendre notre temps pour apprendre à servir les gens, apprendre à aimer les gens. Et certainement, si dans toutes les interactions qu'on va avoir, le temps qu'on va avoir avec les personnes qu'on va rencontrer puis qu'on va apprendre à connaître, on va certainement pouvoir aussi parler de notre foi, parler de l'Évangile. Et cette semaine, on expliquait ça aux jeunes. On expliquait en quoi allait consister le voyage. Et j'ai posé une question à tout le monde pour qu'on apprenne à se connaître un petit peu plus. Donnez-moi une force que vous pensez que vous allez pouvoir mettre à contribution pour le voyage, et aussi une faiblesse ou une crainte que vous aimeriez travailler pendant le temps que vous allez passer à Jibec Ado cet été. Puis pour la plupart d'entre les jeunes, c'était pas mal en lien avec le fait d'être gêné, de pas savoir comment aborder les gens, d'avoir peur de déranger les autres, puis de vouloir être moins gêné, de savoir quoi dire quand on parle avec le monde. Ça leur faisait peur. Et puis moi, je leur ai dit, moi, je suis vraiment content de faire le voyage avec vous. Je suis content que vous allez pouvoir goûter à ça. Puis une chose, c'est votre premier voyage, donc on veut, ça va être pas mal votre première expérience, donc on veut que vous puissiez, oui, participer, servir, mais aussi observer, puis apprendre. Puis moi, ben je veux que vous appreniez de moi, je veux que vous puissiez me regarder, mais j'ai dit, je veux juste vous dire une chose, j'ai les mêmes craintes que vous autres. Moi aussi, j'ai ces craintes-là d'aborder les gens, puis tu sais, je veux être un modèle, mais je veux être un modèle assez imparfait, parce que les craintes que vous avez, moi aussi, je les ai. Et c'est quand même une bonne question. Quels sont les obstacles, les craintes, les difficultés quand tu considères la vie chrétienne ou l'Évangile, quand tu considères la mission? Parce qu'il semblerait qu'il n'y a pas juste les jeunes qui vivent ça. Moi, quand j'avais 14 ans, puis que j'allais à l'école le matin, puis là, je me disais, je suis gêné de parler de Jésus ou de dire aux autres que je suis chrétien. Ou je me disais, j'ai hâte d'être un adulte, là, j'aurais plus ces craintes-là. Et c'est pas ça qui s'est passé dans mon cas. Puis il semblerait que les discussions qu'on a eues à la jeunesse cette semaine, on les aurait eues avec pas mal n'importe qui ici ce matin. On dit que l'une des plus grandes difficultés de la vie chrétienne, c'est de partager l'Évangile, de vivre sa foi, la vie chrétienne, de manière ouverte. La peur d'aborder les autres, la crainte de ce qu'ils vont penser de moi, pas savoir quoi dire, comment agir, c'est toutes des choses qui peuvent arriver quand on fait face à cette question. Et on va voir ce matin que, oui, il y a plein d'obstacles à vivre notre foi, à faire la mission que Dieu nous demande de partager notre foi, de faire des disciples. Puis même si on n'est pas conscient des obstacles, peut-être que toi ce matin, tu dis, ben moi je suis une personne extravertie, pas gênée, j'ai pas peur d'aborder les gens, je m'inquiète pas de ce que le monde pense de moi quand que je leur parle de n'importe quoi. Tu sais, c'est pas quelque chose qui me fait peur parler de Dieu aux gens. Mais on va quand même voir que pour chacun d'entre nous, il y a des obstacles à vivre la mission que Dieu nous demande de vivre. Puis pour les chrétiens, pour ceux qui croient que Jésus est mort à la croix pour leurs péchés et que Jésus est ressuscité, c'est pour ceux pour qui Jésus est devenu le maître de leur vie. Bien, il faut se dire ceci ce matin, cette mission-là qu'on parle, ce désir-là, de, cette réalité-là, d'annoncer l'Évangile, de parler de notre foi, de vivre notre foi au quotidien, c'est une mission qui est impossible par nos propres forces. Puis si on considère nos propres forces, on va juste réaliser que c'est impossible et qu'on est imparfait pour accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir. Mais ce qu'on va voir ce matin, et le point positif, ce que la Bible nous enseigne, c'est que on a tout ce qu'on a besoin pour participer à cette mission. Ce matin, on va voir qu'on est en mission avec Dieu. On peut tous répondre à l'appel de Dieu pour nos vies en comptant sur sa puissance. On va voir ça en se rappelant que Dieu est avec nous et qu'on peut toujours compter sur la puissance de l'Évangile. Et pour ce faire, on va aller voir dans 2 Timothée, si vous pouvez tourner dans 2 Timothée au chapitre 1, on va lire un passage ici. Donc, dans 2 Timothée au chapitre 1, on va lire du verset 6 au verset 12. C'est pourquoi je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous donne, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité, et qui a maintenant été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'enseigner les non-juifs. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. Donc avant d'aller plus loin, on va prendre un temps dans la prière ce matin. Seigneur Dieu, on veut te remettre ce temps ensemble dans tes mains, que tu puisses parler à nos cœurs, Seigneur, venir nous mettre au défi ce matin par ta parole, qu'on puisse être encouragé, mis au défi et vraiment être ouvert à répondre à l'appel que tu nous fais constamment, Seigneur, par ta parole. Et qu'on puisse être obéissant et obéissant pour la mettre en pratique de plus en plus, de mieux en mieux, Seigneur, à tous les jours de notre vie. Alors, sois avec nous ce matin. C'est dans ton nom qu'on te prie. Amen. Donc, examinons ensemble, premièrement, l'encouragement que Paul fait à Timothée dans ce passage. Il l'encourage à ranimer la flamme du don de Dieu. Paul demande à Timothée de continuer de mettre en pratique le don que Dieu lui a donné. On voit spécifiquement qu'est-ce que Paul demande à Timothée. C'est de persévérer dans son ministère, de partager l'Évangile, de vivre la mission à laquelle Dieu l'a appelé à participer. Mais dans quelles circonstances? Paul dit à Timothée, « Sois prêt à souffrir pour moi, avec moi pour l'Évangile. » Paul, à cause de sa foi, est en prison, puis il va probablement mourir. Puis en fait, c'est vraiment intéressant parce que la lettre de 2 Timothée, c'est une lettre que Paul écrit en prison. Puis c'est comme les dernières paroles qu'il envoie à son bien-aimé Timothée, à son fils dans la foi. Paul est pas mal certain qu'il est à la fin de ses jours. Puis là, il envoie à un fils dans la foi, quelqu'un qui aime beaucoup, quelqu'un qui a beaucoup d'estime, quelqu'un qui a formé ses dernières paroles. Donc, on peut vraiment s'attendre à ce que Paul donne le cri de son cœur à Timothée puis lui dise les choses les plus importantes qu'il aurait à lui dire. Et ce qu'il est en train de lui dire, c'est de prendre courage puis de persévérer dans le ministère de l'Évangile, dans la mission. Et Timothée vit de l'opposition. Timothée lui-même, c'est un jeune homme dans la foi. Et Paul l'appelle à prendre courage. Puis même qu'on voit dans 2 Timothée 2, 6, 18, juste le chapitre après celui-là, Paul lui dit, évite les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole propagera son infection comme la gangrène. C'est le cas d'Hyménée et de Philette. Ils se sont détournés de la vérité en affirmant que la résurrection est déjà arrivée et ils ébranlent la foi de certains. Donc, dans l'église où Timothée est, il y a du monde qui propage des fausses croyances, un faux évangile, des fausses croyances par rapport à la résurrection. Et Timothée, lui, doit prendre courage à parler contre ces gars-là puis de leur annoncer à l'église le vrai message de l'évangile. Donc, il vit de l'opposition certainement de l'extérieur, de l'opposition qui vient de l'Église même. Et Paul demande à Timothée de consacrer ta vie à la mission, au message de l'Évangile et sois prêt à souffrir pour cette cause-là. Sois prêt à faire face à l'opposition qui vient de ton cœur, on va voir ça plus tard, de l'intérieur de l'Église dans son cas et de l'extérieur de l'Église. Et la première chose qu'on veut voir pour être prêt à faire face à cette opposition-là, c'est que Dieu est avec nous. Et Paul dit, c'est exactement ça qu'il dit, il faut se rappeler qu'on n'est pas seul. Que dans cette exhortation-là, cet encouragement-là de Paul à Timothée, la première chose qu'il fait, c'est qu'il lui rappelle l'esprit que Dieu lui a donné. Et si on prend l'exemple de Jésus, la dernière chose que Jésus a dit à ses disciples avant de les quitter, c'est, et puis de l'avoir donné la mission d'aller de faire de toutes les nations des disciples, donc donner votre vie pour la mission que moi j'ai déjà commencé ici sur la terre, de faire des disciples, aller parler de moi, de ce que j'ai fait, aller dire au monde que je suis vivant, que je peux les sauver de leurs péchés. La dernière chose qu'il leur a dit, c'est, mais moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puis les apôtres, eux, ils ont vu Jésus pendant 3 ans. Ils ont vu ses miracles, ils ont vu l'autorité de Jésus avec laquelle il parlait quand il s'adressait aux leaders religieux de l'époque, ou quand il s'adressait même à des démons, puis qu'il disait à des démons de sortir de ce corps. Puis il parlait avec beaucoup d'autorité. Les apôtres ont été témoins de ça. Puis eux-mêmes, en étant avec Jésus, ils se sentaient pas mal hot, là. Ils voyaient que Jésus était là, il faisait toutes des grandes choses, puis là Jésus était avec nous, puis eux ils partaient, ils parlaient du royaume, ils parlaient de Jésus, même eux on peut voir qu'ils ont fait des miracles, puis à un moment donné, un des apôtres il a proposé à Jésus, il dit, les autres ils veulent rien savoir du message qu'on a à leur dire, tu devrais commander le feu du ciel pour qu'il tombe sur eux. Il était tellement confiant qu'il pensait qu'il pouvait faire n'importe quoi. Jésus leur a dit, non, on va pas faire ça, mais juste pour dire comment est-ce que, dans la présence de Jésus, les apôtres ils étaient prêts à faire tout ce que Jésus leur demandait de faire. Mais quand Jésus s'est fait arrêter, puis que Jésus est mort, ils ne comprenaient plus rien. Les disciples se sont dispersés. On voit le témoignage de Pierre qui a renié Jésus. Ils sont retournés dans leurs préoccupations, faire ce qu'ils faisaient avant. Puis là, ils étaient vraiment confus, dans la tristesse, découragés. Jésus, Dieu, n'était plus avec eux. Et c'est là que quand ils voient Jésus, après qu'il soit ressuscité, là, ils ont compris qui Jésus était véritablement. Jésus était le Messie, le roi attendu, le sauveur, le tout-puissant, celui qui a vaincu la mort, Dieu fait homme. Et ce qu'on voit, c'est que chacun d'entre eux, l'histoire nous dit qu'ils ont donné leur vie pour la cause de l'Évangile. Ça, c'est les gars qui étaient retournés chez eux vraiment comme abattus une fois que Jésus était mort. Parce qu'à ce moment-là, ils savaient et comprenaient que Jésus était véritablement avec eux. Quand Jésus leur a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », ça voulait dire quelque chose pour eux. Eux ont vu la présence de Jésus, puis là, ils comprenaient comme, Jésus n'est peut-être plus là physiquement, mais Jésus, il est autant là que quand il était avec nous sur la terre. Et Paul ici rappelle à Timothée quel esprit il a reçu. Un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Et ce qu'on voit, c'est que quand on se laisse diriger par l'esprit, on trouve la puissance suffisante pour vaincre le malin, pour gagner des âmes et faire tout ce que Dieu attend de nous. Donc oui, c'est impossible de répondre à l'appel de faire des disciples, ou comme Paul le dit, de souffrir avec lui pour l'Évangile par nos propres forces. Mais rappelons-nous quel esprit on a reçu. Un esprit qui a la force, qui a l'amour et la sagesse nécessaires pour accomplir tout ce que Dieu nous demande d'accomplir. Et quand on se rappelle que Dieu est avec nous, puis que Dieu nous donne cette puissance, que Dieu nous donne cet amour-là pour aimer avec autant de sacrifices, notre défi, c'est souvent de changer notre façon de voir les choses par rapport à notre relation avec Dieu. On peut considérer dans les Écritures et quand on parle toutes les choses qu'on veut faire pour Dieu, toutes les choses que Dieu nous demande de faire, puis de dire, bon, là, je dois évangéliser, je dois aimer ceux qui sont pas aimables selon mes standards, je dois faire du bien aux autres, donner de mon temps, de mon argent, avoir les intérêts des autres avant les miens, être prêt à me sacrifier pour les autres. Je dois faire tout ça pour Dieu. Et c'est tellement facile de mettre un fardeau sur nos épaules puis de dire, je suis pas bon si je le fais pas. Je dois le faire de mes propres forces. Puis à chaque fois dans ma vie, je suis découragé parce que j'arrive pas à mettre un pas devant l'autre et vraiment sentir que je suis agréable aux yeux de Dieu et que je réponds à son appel dans ma vie. Mais on peut aussi regarder notre vie, regarder tout ce que je viens de dire, puis réaliser que c'est Dieu qui fait le travail en nous et dans le monde. Il me donne la force d'aimer. Il me donne le courage de parler. Il fait diminuer mes intérêts pour faire grandir mon désir de prendre soin des intérêts des autres. Jésus me montre à quel point j'étais pas aimable quand que lui il a donné sa vie pour moi à la croix. Puis avec cette réalité-là, il fait grandir mon amour pour les autres. Ça, c'est se rappeler qu'on a l'Esprit, qu'il agit en nous à chaque jour et qu'on peut prendre part à sa mission. Et qu'on prend part à sa mission. Et qu'en faisant ça, en prenant part à sa mission, on peut compter sur la présence de l'Esprit qui est en nous, la présence de Dieu. Et non seulement la présence de l'Esprit, mais aussi la puissance de l'Évangile. Paul dit, n'aie pas honte, mais souffre en comptant sur la puissance de Dieu. Donc, on a vu que Paul invite Timothée littéralement à donner sa vie pour la cause de l'Évangile. C'est ça que ça voulait dire pour lui, donner ta vie. Paul, il voyait la fin arriver. Mais avant de considérer c'est quoi la puissance de Dieu et de considérer la puissance de l'Évangile, définissons ensemble la souffrance. Parce que si on regarde juste le cas de Paul et de Timothée concernant la souffrance, on peut se dire, ben moi, en 2016 à Gatineau, en ce moment, dans le présent, si je parle de Dieu à un voisin ou au travail, je peux souffrir, faut définir la souffrance, mais je vais pas être mis en prison ou mis à mort pour ça. Et le danger qu'on peut faire en lisant un texte comme ça, c'est se dire, ben gars, moi, mes souffrances à moi, c'est vraiment rien à côté d'eux, je devrais arrêter de m'apitoyer sur mon sort. Puis non, on veut vraiment voir à quel point on peut être mis au défi par cet appel-là et qu'il y a des souffrances réelles qu'il faut considérer et qu'il faut voir comment Dieu veut qu'on les mette devant lui. Comme on a vu plus haut, la souffrance est reliée aux obstacles de l'Évangile. En d'autres mots, vis ta foi, viens en mission, vis l'Évangile malgré les obstacles. Et c'est ces obstacles-là qui peuvent causer la souffrance. Même si la souffrance n'est pas physique, même si la souffrance c'est pas la mort, on peut souffrir en vivant les obstacles pour l'Évangile. Donc on voit que pour lui, à cette époque-là, c'était certainement les souffrances physiques, la perte de liberté, la mort. Il vivait même de l'opposition dans l'Église à ce moment-là. Et on voit aussi qu'il fait face à l'opposition qui vient de son propre cœur. Paul voit des gens l'abandonner parce que la mission est trop difficile. Il encourage Timothée à pas être timide, à prendre courage. Donc, regardons ce matin ensemble deux oppositions qui peuvent mener à la souffrance. Premièrement, l'opposition qui peut venir de la société, qui peut venir des gens autour de nous, et l'opposition qui vient de notre propre cœur. Premièrement, le message de l'Évangile, croire en Dieu, juste croire en Dieu en 2016, ça peut être une source d'opposition. Hier matin, j'ai déjeuné avec un frère, puis il me racontait que, en parlant de son travail, qu'à un moment donné, il parlait de Dieu avec une collègue de travail. Puis cette collègue-là disait à ce frère-là, elle dit, je peux pas comprendre que quelqu'un d'autant éduqué que toi croit en Dieu puis peut s'appuyer sur un Dieu aujourd'hui. Et il y a quelques années, je travaillais dans un centre, une maison de jeunes, puis je parlais avec un des intervenants, puis le gars, il me disait, OK, Dieu, c'est bon, c'est beau, mais comme il dit, c'est sûr que là, tu vas pas me dire que tu crois à la création, là. Puis là, j'étais comme, ben ouais, je crois à la création. Non, là, il est là, la science, là, puis tu sais, puis il me parlait vraiment comme ça, comme t'es vraiment con de croire ça, là. Tu sais? Donc, il y a certaines comme oppositions comme ça qu'on peut vivre dans nos dialogues avec les gens, que juste le fait que Dieu est dans le discours, que la foi en Dieu, et je dis pas que plus personne croit en Dieu en 2016, je dis pas que les gens sont pas spirituels, mais je dis que c'est des oppositions auxquelles on peut faire face. Et nous, on réagit à ces oppositions-là. Et parfois même, c'est la crainte de ces oppositions-là qui va faire que on aime mieux pas parler ou pas ouvrir la bouche. Et c'est ça qu'on veut aborder ce matin. Donc, on vit à une époque où Dieu ne fait pas beaucoup partie de la vie des gens, de leur compréhension de la vie. Juste le fait de croire en Dieu est sujet à susciter l'incompréhension des gens et parfois le mépris ou encore l'indifférence. C'est bon pour toi ce que tu crois, mais on devrait parler d'autre chose, on s'entend pas là-dessus. Alors, quand que là, on va un point plus loin puis qu'on affirme que l'Évangile, le message de la Bible, que la mort de Jésus à la croix, la résurrection de Jésus sont la vérité, ce que la Bible enseigne, c'est vrai, puis qu'il peut pas avoir deux vérités, il peut pas avoir deux sources de vérité, alors c'est certain que dans ce contexte, on va vivre de l'opposition à nos affirmations. Une autre opposition qu'on peut voir face aux croyances d'aujourd'hui, c'est par rapport à une croyance qui est l'humanisme. L'humanisme va dire, je suis une bonne personne, j'ai tout ce que j'ai besoin en moi pour réussir, pour être la personne que je veux être. L'humaniste dit, si je fais le mal, c'est pas de ma faute, c'est à cause de la société qui m'a corrompu. Quand j'étais à l'université, il y a un prof qui a dit, tu peux pas travailler dans le domaine psychosocial, donc intervenir avec les gens qui ont des difficultés, si t'es pas humaniste, parce que tu vas travailler avec du monde, puis tu vas pas croire qu'ils ont la force en eux de s'en sortir. Alors que quand que tu dis que l'Évangile dit que le problème vient du cœur, qu'on n'est pas des bonnes personnes à cause du péché, peu importe l'ampleur de notre problème, on peut pas s'en sortir sans Dieu. Puis que là tu dis c'est ça, tu n'es pas une bonne personne, mais une bonne personne, une personne parfaite a donné sa vie pour faire de moi une personne pardonnée, une personne parfaite à cause de Jésus. Là, c'est pas le message le plus populaire. De dire qu'on n'est pas des bonnes personnes, qu'on a besoin de Dieu pour nous en sortir. Et je dis pas ça ce matin, et certainement, je prends une pause juste pour dire que dans ma façon de voir les choses, je veux pas que on regarde ces oppositions-là possibles et créer nous-mêmes une hostilité envers le monde et avoir de la difficulté à aimer le monde ou avoir du mépris envers ceux qui pensent pas comme nous, comme ce gars-là qui croyait pas à la création. Au contraire, je crois qu'il faut peindre un portrait des oppositions possibles qu'on peut vivre pour l'Évangile. Mais faut pas que ça crée de la haine envers le monde. Au contraire, Dieu veut qu'on aime le monde et qu'on persiste la mission dans ce monde-là qu'on vit dedans. Dieu veut qu'on connaisse le monde dans lequel on vit et qu'on puisse justement le servir et l'aimer. Et c'est ça qu'on va voir. On doit apprendre à savoir comment on va dealer avec cette opposition-là en tant que chrétien. Mais c'est certainement pas de haïr le monde à cause qu'il pense pas comme nous. Je crois qu'il faut justement apprendre à se respecter tout en étant capable d'affirmer le message de l'Évangile. Donc, nous faisons face à l'opposition de notre société, puisque le message de l'Évangile n'est pas un message populaire. Mais il y a une opposition encore plus grande, qui va même affecter comment on va vivre l'opposition du monde, qui va nous faire souffrir davantage quand on décide de prendre part à la mission avec Dieu et qu'on décide, qu'on vit à chaque jour quand on est en mission avec Dieu, c'est l'opposition de notre cœur. La mission expose nos peurs, nos péchés, nos faiblesses et nos affections. Et encore une fois, il faut le rappeler, c'est impossible de vivre la mission sans l'Esprit de Dieu. Si Paul encourage Timothée de la sorte, c'est qu'il sait que l'opposition va l'atteindre, peut l'atteindre, peut le décourager. Certains l'ont déjà même abandonné. Alors, posons-nous la question. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de faire ce que Dieu demande? Pourquoi est-ce que, quand on considère la mission, que ce soit il y a 2000 ans, quand on regarde ce qui est écrit dans la Bible, ou maintenant, on voit l'opposition, les difficultés, le découragement? Il semble que c'est si facile de trouver qu'on n'en fait pas assez, qu'on manque de courage, qu'on manque d'amour, qu'on manque de désir. Et je suis sûr que ce matin, je donne des exemples comme ça, mais chacun d'entre nous, on peut identifier des peurs, des faiblesses qu'on vit quand on considère la mission que Dieu nous donne. Pourquoi donc vivre en mission semble si ardu? Bien, Dave Harvey, qui est l'auteur d'un livre qui a été traduit en français qui s'appelle « Secourir l'ambition », nous aide à donner une réponse à cette question-là. En définissant l'ambition, il dit « Nous sommes tous des chasseurs de gloire ». Et il donne l'exemple, peut-être que vous avez vu il y a plusieurs années de ça, le film « Tornade », où est-ce qu'il y avait des chasseurs de tornades qui se promenaient dans leur camion, puis ils chassaient là, eux, ils voulaient voir les tornades. Ils voulaient aller dans les tornades pour prendre une machine, pour avoir des données météorologiques, des nouvelles données sur les tornades. Donc eux, leur job, leur motivation dans la vie, c'était que quand tout le monde s'en allait parce qu'il y avait des tornades, eux, ils voulaient courir là où était la tornade pour pouvoir mettre la machine dedans. Et il dit, nous, c'est comme ça, on est des chasseurs de gloire. On cherche ce qui a de la valeur, on cherche ce qui a de la dignité et on cherche ce qui a de l'importance. À cause du péché dans nos vies, de notre rébellion à Dieu, nous trouvons notre valeur, notre dignité et notre importance dans toutes sortes d'autres choses que Dieu. On donne de la valeur, de la dignité, de l'importance à plein de choses dans lesquelles on met beaucoup d'espoir. Puis le problème, et ça, M. Harvey en parle dans son livre, puis il développe ça, le problème, c'est pas la recherche de gloire. Le problème, c'est que le péché me place au centre de mes désirs et de mes rêves. Au lieu de soutenir l'ordre établi par Dieu, où Dieu est au centre, où on cherche la gloire de Dieu, où on cherche à accomplir les désirs et la mission de Dieu, on cherche continuellement à faire avancer notre propre cause. Puis cet état contribue plutôt à faire reculer l'âme humaine. En d'autres mots, à cause du péché, la mission à laquelle Dieu nous demande de participer avec lui vient s'opposer à ma quête personnelle d'accomplir mes désirs et mes rêves. Pour que je puisse mettre Dieu au centre de mes désirs et de mes rêves et pour que je cherche à faire avancer sa cause plutôt que la mienne. En réalité, ça c'est le combat de la vie chrétienne, c'est le combat de nos vies. C'est de vivre ce combat-là où est-ce que j'ai mes désirs, mes rêves, puis ils ne sont pas toujours synchronisé avec ceux de Dieu. Et c'est ça que la crainte des autres, le manque d'amour envers ceux qui croient pas comme nous, qui ont un statut social plus bas que nous, le manque de désir et d'intérêt d'être un témoin de Jésus autour de moi, le désir de faire juste ce qui me plaît quand ça me tente, c'est ça que toutes ces choses-là révèlent. Ce combat-là de vouloir faire poursuivre ma propre gloire, ma propre quête de bonheur plutôt que de poursuivre la mission que Dieu me demande de participer. Donc, quand on fait partie, quand on décide, quand on s'engage dans la mission, on va constamment être confronté à ça. Donc, on est appelé à combattre cette quête d'ambition personnelle pour faire de notre vie une ambition, une quête ambitieuse pour la mission que Dieu qui est de réconcilier le monde avec lui. Et une petite nuance ici, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir de plaisir dans ce qu'on fait ou qu'il faut tout donner notre argent dès qu'on en fait un petit peu ou qu'il faut laisser nos jobs qu'on aime. Non, parce que la mission se vit dans tous ces milieux selon les dons et les passions que Dieu nous donne et qui nous permet de mettre à son service. Mais ça veut dire que trouver notre valeur, notre dignité et notre importance en Dieu et en ce qu'il a fait pour nous, c'est là qu'on trouve la vraie satisfaction et la vraie joie. Une autre opposition de notre cœur qu'on peut voir, c'est l'orgueil de la réussite. Le danger de compter sur nos propres forces. La mission peut aussi, justement, exposer notre orgueil. On peut louanger peut-être notre facilité à parler de Dieu, notre efficacité à amener du monde à l'église ou à amener des gens à Christ ou de dire, hey, regarde Seigneur, cette année j'ai fait tant de voyages missionnaires pour toi, je suis allé à l'église tant de fois et c'est facile, là c'est facile de caricaturer, mais souvent on fait des choses et on remet nos ambitions, même en faisant des choses pour Dieu, au centre et de dire, regardez comment je suis bon, comment est-ce que là Dieu c'est sûr qu'il va m'accepter. Mais quand on regarde la puissance de l'Évangile, et c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est on voit que c'est Dieu qui sauve, que c'est par sa grâce et non pas par nos œuvres. Et que c'est lui, si cet esprit puissant-là n'était pas là, on ne pourrait rien faire de ce qu'on fait là. Et si on fait ces choses-là par nos forces, et que ce n'est pas Dieu qui est en train de le faire, ça n'a aucune valeur. Mais on peut le faire parce que Jésus, par sa grâce, nous permet de le faire avec lui et il nous accompagne dans cette mission-là. Donc, c'est lui qui sauve par sa grâce, pas par nos œuvres. Donc, on peut voir l'opposition, faire face à l'opposition qui vient de la société, l'opposition qui vient de nos cœurs. Et Paul rappelle à Timothée, « Mais souffre avec moi en comptant sur la puissance de Dieu. » Et on va lire juste ici, et je vais relire... Verset 8, « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés, il nous a adressé un saint appel, il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. » Donc, Paul rappelle à Timothée de quelle manière Dieu a manifesté sa puissance. Dieu compte sur la puissance de Dieu et voici comment Dieu a manifesté sa puissance, c'est par l'Évangile, par la mort et la résurrection de Jésus à la croix. La puissance de l'Évangile, il nous a sauvés de la pénalité de nos fautes, il nous a appelés à vivre une vie sainte, c'est-à-dire rechercher le bien, rechercher ce qui plaît à Dieu, rejeter le mal. Et la puissance de l'Évangile se manifeste dans des vies transformées. Et bien que nous sommes appelés à proclamer le message de l'Évangile, être en mission avec Jésus, c'est aussi vivre les effets de l'Évangile dans notre vie. À mon travail, à la maison, dans mon couple, c'est être intentionnellement conscient que ma vie transformé par la puissance de l'Évangile peut avoir un impact dans la vie des gens avec qui je connecte. Et juste hier, je vous ai dit tantôt qu'on était allé avec la famille se promener dehors, on était allé à Ottawa sur le marché Bay. Et c'est drôle parce qu'on était dans l'auto et là, il y avait beaucoup de monde sur la route rendu au centre-ville. Et puis là, je commençais à avoir hâte de trouver un stationnement. Et là, tout d'un coup, tout devenait comme pas super... positif autour de moi. Puis dans ma tête, ce qui se passait, c'est que là, je commençais à critiquer les autres. Là, on était en plein dans le marché Bay avec l'auto, cherchais un stationnement. Je venais de décider là que j'allais prendre un stationnement intérieur. Puis là, je commence à critiquer la personne en avant de moi qui prend trop de temps pour tourner. Puis là, ben Kim elle me dit, ben c'est parce qu'il y a des piétons. Je dis, ouais, mais il aurait pu en laisser passer la moitié, ça aurait été quand même courtois, tu sais. Puis y aller avant, tu sais, le monde, il attendait que le monde arrivait. Puis là, un moment donné, il y avait quelqu'un qui marchait dans la rue tout croche. J'ai dit, bon, lui, il se sent chez eux ici. Puis je commençais à critiquer comme ça le monde. Puis là, un moment donné, je pars à rire. Puis je dis, ouais, je manque vraiment d'amour en ce moment. Puis qu'est-ce qui est intéressant ici? Et bon, dans mon illustration ici, les gens là, ils savent même pas que j'existe, ceux que j'ai critiqués. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on arrive dans notre vie à être intentionnel et comprendre que ma vie, la manière que je vois les gens, la manière que je traite les autres, les interactions que je vais avoir avec eux, peut et va avoir une influence pour l'Évangile. Et si je manque d'amour pour la personne qui est plus courtoise que moi, ou que je manque d'amour pour la personne qui je trouve que ça n'a pas d'allure comment qu'elle marche dans la rue. Puis, mais c'est intéressant que ça peut juste exposer notre cœur. Ok, mais en ce moment, moi, je suis bien plus important que ces personnes-là. Puis souvent, c'est des gens avec qui on est en interaction. Ça peut être dans notre maison, ça peut être dans notre travail. Et c'est bon de... Et moi, je dis pas que je suis conscient de ça à toutes les fois, mais c'est bon d'être conscient que ma façon de voir les gens va faire une différence sur comment je vais les traiter et comment je vais pouvoir les aborder pour l'Évangile et comment est-ce que mon témoignage va pouvoir avoir un impact dans leur vie. D'être conscient que dès le matin, quand je me lève, ma journée... c'est que je suis en mission avec Dieu et que l'interaction que je vais avoir avec mes enfants, avec mon épouse, avec les gens au travail, avec les inconnus dans l'autobus, au magasin, les interactions spontanées que je vais avoir dans ma journée peuvent et vont avoir une influence pour l'Évangile dans ma manière que je vais agir. Et que quand que justement on regarde les gens avec mépris comme je l'ai fait hier, d'être capable de dire « Oh là, la mission vient d'exposer » mon cœur et je dois demander pardon à Dieu pour ça. Parce que Dieu me demande d'aimer ces gens-là. Parce que Dieu les a aimés et Dieu veut que ces gens-là sachent que Dieu les aime. Donc, quelle différence est-ce que ça fait que Jésus est mort et ressuscité pour moi? Concrètement, c'est désirer faire du bien aux gens autour de moi. C'est valoriser les gens plus que ma promotion, par exemple, au travail, mon confort. C'est demander pardon souvent, parce qu'on a souvent besoin de demander pardon. C'est servir les autres. C'est aimer plus que les gens sont habitués d'être aimés. C'est le boss qui sert ses employés d'une façon extraordinaire, inattendue. C'est l'employé qui respecte son boss quand tout le monde le critique. C'est le mari ou la femme qui va demander pardon ou qui pardonne quand une offense est faite. C'est comment est-ce que Dieu veut qu'on agisse dans toutes les interactions dans notre vie, et non pas comment est-ce que ça serait normal d'agir ou comment est-ce que mon cœur voudrait que j'agisse à ce moment-là. Et ce qu'on voit aussi, c'est que Dieu a vaincu la mort. On lit ici, encore dans le verset 9, « Il nous a sauvés, il nous a adressé un saint appel. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce. » Qui nous a été accordé en Jésus-Christ de toute éternité et qui maintenant a été révélé par la venue de notre Sauveur Jésus. C'est lui qui a rendu la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. Jésus a vaincu la mort. Pour un enfant de Dieu, pour un chrétien, la mort n'a plus de pouvoir. La condamnation pour nos fautes, qui était la mort, n'est plus la mort parce que Jésus a payé le prix. Jésus est mort pour nous. Mais on voit aussi par l'Évangile que notre appel à vivre la mission doit être enraciné dans l'Évangile. Premièrement, on voit comment c'est important de souffrir à la lumière des souffrances de Jésus. La puissance de Dieu est manifestée dans l'Évangile. Non seulement on peut nous identifier à Christ, Mais la croix et le tombeau vide nous enseignent qu'aucune souffrance n'a le pouvoir de nous détruire. Parce que Jésus a eu le dessus sur la mort. Aucune des oppositions que je vis, aucun de mes péchés n'est trop grand pour que Dieu puisse le pardonner, pour le surmonter, pour faire de moi un témoin de son évangile. C'est cette puissance qui nous accompagne quand on est appelé à prendre part aux souffrances liées à l'Évangile. On voit que c'est dans son salut qu'il nous a accordé qu'on voit la manifestation suprême de sa puissance, de son amour et de sa sagesse. Ce que Jésus a fait à la croix, il nous le donne et il nous donne cet amour, cette puissance, son amour et sa sagesse. Et quand on considère qu'est-ce que Jésus a fait, ce qu'il a enduré, puis en plus, la puissance avec laquelle il a rendu la mort impuissante. Moi, je trouve ça, juste de lire ça, je trouve ça fou. Alors, je peux considérer l'opposition du monde, l'opposition de mon cœur, et prendre courage en sachant que Jésus est plus fort, plus puissant que cette opposition. Et puis je peux me dire, si Jésus a vécu cette, je peux m'identifier, je peux voir les souffrances de Jésus et dire, si lui a fait ça pour moi, alors quel est le prix à payer pour moi d'être capable de donner ma vie pour lui et au service des autres? Quand on réalise l'ampleur de la conséquence du péché et la puissance avec laquelle Dieu, Jésus l'a vaincu. La puissance de Dieu va fortifier ceux qui vont lui rendre témoignage. Donc, l'esprit de force qui est en nous, c'est l'esprit de Dieu qui a rendu la mort impuissante et qui te donne la force que tu as besoin pour faire sa mission. Mais Paul, il finit, il dit, tu peux souffrir avec moi parce que je connais celui en qui j'ai cru. Puis je sais qu'il va accomplir son plan. Paul sait qu'à la lumière de l'éternité, donc il sait que Dieu, il va aller passer l'éternité avec Dieu, qu'à la fin, il va avoir une libération, comme on a vu dans le 21 jours de prière, libération 21. Il sait que la libération finale, c'est de se retrouver avec Jésus pour l'éternité. Puis à la lumière de l'éternité, vivre la mission, c'est un mince sacrifice. Il dit, je souffre parce qu'un jour, je vais passer l'éternité au ciel avec lui. Voici sa consolation, voici le plaisir, voici son cadeau finalement. Je sais en qui j'ai cru, puis je sais qu'il a le pouvoir, de garder ce dépôt jusqu'à la fin, jusqu'à ce jour-là, le jour où je vais pouvoir passer l'éternité avec lui. L'espérance de la vie éternelle. La certitude que Jésus l'a acquis en rendant la mort impuissante, c'est ce qui donne la motivation à Paul de persévérer jusqu'à la fin. Donc ce matin, on a vu qu'on est en mission avec Dieu. Avec Dieu. Et je l'écris comme ça parce que Dieu est avec nous et c'est la mission que Dieu est en train d'accomplir, de réconcilier le monde avec lui. Il nous a équipés pour vivre cette mission en nous donnant son esprit qui nous donne de la force. L'amour et la sagesse nécessaires pour vivre cette mission. Il nous donne sa puissance qui s'est manifestée par l'Évangile. Alors si Dieu nous donne tout ça, par sa grâce et à cause de la force qu'il t'a donnée, par son esprit, tu peux te dire ce matin que tu es capable tu peux continuer de persévérer et prendre part à cette mission en comptant sur sa puissance. C'est une vérité avec laquelle tu peux partir ce matin. Te rappeler, te réconforter. Alors la culpabilité puis le sentiment de pas être bon, d'être incapable de faire ce que Dieu te demande, c'est un état que tu veux pas garder et c'est pas cet état-là que Dieu veut que tu ailles. Parce qu'il est mort à la croix pour te libérer de cette culpabilité-là. Non, tu as l'Esprit Tout-Puissant qui t'équipe. Il veut te faire avancer, te faire progresser. Il veut te montrer sa puissance à tous les jours. Et ce matin, ce que je veux te dire, c'est fais-lui confiance. Va combattre dans la prière en demandant à Dieu qu'est-ce qu'il veut pour toi, comment est-ce qu'il veut que tu le serves, que tu le suives, que à tous les jours, dans tous les domaines. Et crois que c'est sa mission. Que c'est lui qui est en train de réconcilier le monde avec lui et que lui, il veut que nous, l'Église, on en fasse part, qu'on prenne part à cette mission-là. Et ça, c'est toute une joie et tout un réconfort. Alors, nous sommes en mission avec Dieu. On a son esprit qui est un esprit de force, d'amour et de sagesse. On est poussé par la puissance de l'Évangile et on peut prendre part à cette mission-là avec lui et réjouissons-nous ce matin du fait qu'il veut nous utiliser dans cette mission, la mission la plus importante qui soit, qui est de réconcilier le monde avec lui. Alors, je vais terminer avec la prière. Seigneur Dieu, merci pour le temps qu'on a eu ensemble ce matin. Merci pour ta grâce, ton amour. Merci pour la puissance, pour la force que tu nous donnes. De surmonter nos craintes, surmonter nos peurs, d'être réconcilié avec toi, Seigneur. Ce matin, si on voit de l'opposition dans notre cœur, si on voit des péchés qui nous empêchent ou qui, qui, qui nous empêche de vouloir te suivre davantage, qui nous empêche de vouloir te donner tout ce que tu nous demandes, Seigneur, de nous donner notre vie, d'être capable de souffrir, de donner notre vie pour toi. Alors, Seigneur, il faut croire que tu as la puissance de même pardonner ces péchés-là, de nous aider à combattre cette opposition-là pour qu'on puisse être utile pour toi. Qu'on puisse prendre plaisir à cette mission-là, que tu puisses nous donner de la joie de participer à ton œuvre que tu es en train d'accomplir, de réconcilier le monde avec toi, Seigneur Dieu. Que ce soit le désir de notre cœur le plus fort, de voir ta gloire éclater partout dans le monde, de voir ton nom être proclamé partout dans le monde et que les gens autour de nous puissent voir les effets de l'Évangile dans nos vies et qu'ils puissent avoir le désir d'en être impactés. Seigneur, c'est notre prière ce matin en tant qu'Église. Et on te demande de ne pas nous laisser où on est, mais de par ta parole, avec ta parole et par ta puissance, viens transformer nos cœurs, viens nous faire progresser, amène-nous un pas plus loin dans notre relation avec toi, Seigneur Dieu. C'est dans ton nom qu'on te prie. Amen.